Le gouverneur de la province de Katanga vient d'interdire jusqu'à nouvel ordre l'exportation des concentrés du cobalt. Pour Moïse Katumbi, la plupart des sociétés minières pillent les richesses de la province en exportant les minerais bruts cachés sous des concentrés de cobalt. Les entreprises minières devraient implanter les concentrateurs au Katanga et exporter les produits finis. Cela donnera une valeur ajoutée aux minerais qui sortent de la province. Nous en parlons justement aujourd'hui parce que c'est une question d'actualité. Hein. La décision est tombée hier, raison pour laquelle nous avons associé dans cette émission Eric Munga, président du comité mine à la FEC Katanga. Nous avons également dans ce studio Léonide Moupépélé, ADG du Centre d'expertise, d'évaluation et de certificat des matières précieuses et semi-précieuses, CEC, ainsi que Félix Mopandé, directeur général du cadastre minier. À vous tous, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, on va vous donner la parole dans un instant, hein, juste après le point avec mon confrère Judith Kachama. Judith, puisque vous êtes penché sur cette question, quelles sont les vraies raisons à la base de cette décision de l'exécutif du Katanga?
En fait, les autorités du Katanga reprochent aux sociétés minières implantées dans la région d'exporter les minéraux bruts, alors que cela est interdit. Puis, il y a une année, le gouverneur leur avait demandé d'installer sur place des usines métallurgiques avec des concentrateurs de cobalt. Cependant, beaucoup ne se sont pas encore conformés à cette décision. Écoutons à ce sujet la déclaration du gouverneur de province du Katanga, Moïse Katumbi.
Il y a eu beaucoup d'abus. Il y a des gens qui ont de permis d'exportation du concentré, mais qui n'ont pas de concentrateur. Et ils ont seulement de broyeurs. Donc, ils sont en train de piller nos richesses, qui sont en train de partir sans y avoir de la valeur ajoutée. Et j'avais aussi demandé, même le concentré, c'était pendant une année. On allait passer voir des sociétés qui sont en train de construire des usines métallurgiques. J'ai amené des experts, des expatriés qui viennent de Londres. Ils arrivent dimanche et le lundi. Ils vont aller voir chaque opérateur minier. Les gens sont en train de construire des usines métallurgiques et qu'ils ont des concentrateurs, ils auront des certificats pour continuer l'exportation. En même temps, ils doivent aussi faire le champ, les 500 hectares qu'on a demandé. Mais les gens qui ont des concentrateurs et qui n'ont pas encore commencé, ah là, ils ne vont pas exporter le minerai.
Oui, on a suivi Moïse Katumbi, nous rappelons qu'il est le gouverneur du Katanga, qui a dit que la plupart de ceux-là qui exportent, qui exploitent le cobalt, ils ont des broyeurs et pas de concentrateurs. Alors bon, ce serait bien quand même de définir à nos auditeurs, c'est quoi un concentrateur?
En fait, c'est un appareil qui, par des procédés divers, permet d'éliminer la gangue ou la terre qui entoure, n'est-ce pas, le cobalt. Donc le concentrateur permet d'éliminer en quelque sorte les déchets afin d'améliorer la teneur ou le pourcentage du minerai. D'où le gouverneur de province demande que chaque société minière installe des usines métallurgiques avec des concentrateurs sur place au Katanga.
Oui, donc ils ont toujours fonctionné depuis des années sans pour autant avoir ces concentrateurs. Pourquoi la décision tombe maintenant seulement? C'est ça aussi la grande question. On va certainement revenir avec vos avis tout à l'heure à ce sujet, mais est-ce que vous avez pu recueillir les avis de quelques sociétés minières à ce sujet?
Oui, nous avons parlé avec l'administrateur de la société minière du Katanga, Somika en sigle. Gérard Tamboué nous donne ici son point de vue par rapport à cette décision de l'exécutif provincial du Katanga. On peut l'écouter.
C'est une décision qui est prise par l'autorité. Il me semble qu'il s'agit d'une décision, d'une mesure conservatoire. Et lorsque une autorité prend une mesure conservatoire, c'est que il y a certainement quelque chose, il y a une raison pour laquelle il prend la décision. Il y a une commission qui est à pied d'œuvre, qui est en train de passer, je crois, dans toutes les entreprises pour pouvoir faire certaines vérifications de routine. Hein.
Mais nous avons appris qu'il y a une année, l'autorité avait demandé aux entreprises minières de construire et d'installer des entreprises, des usines métallurgiques sur place pour la concentration des matières premières, des cobalt. Cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui.
Non, mais c'est exact. C'est exact. Je crois qu'il y a la majorité des entreprises sont dans la phase d'installation de nouvelles unités de production, mais il existe des contraintes réelles, notamment l'approvisionnement en électricité, ça semble poser des problèmes. Donc, il y a en même temps un plan, il y a la SNEL qui, elle aussi, est en train de travailler dans le sens de rencontrer la demande d'électricité des compagnies minières. Donc, c'est quelque chose qui devrait prendre un peu de temps.
Il y a des entreprises qui présentaient des matières concentrées au-dessus de leurs colis, alors qu'en dessous, il y a le brut, alors ça c'est vraiment de la fraude. Vous aussi vous l'avez pratiqué?
Non, nous ne sommes pas concernés. Moi, je ne sais pas si cela est vraiment possible dans la mesure où sur la voie de sortie, il existe de nombreuses barrières. Hein, et je crois que c'est justement pour essayer de contrer ce genre de pratiques. Hein.
Voilà, donc on va développer ce sujet avec nos invités. Nous rappelons encore que vous pouvez réagir et participer à cette émission en nous appelant au 081 070 2050. Ça, c'est pour le SMS. Si vous souhaitez participer directement, il y a un autre numéro de téléphone, c'est le 081 890 63 94. Mais nous rappelons qu'il ne faut pas biper pour nous appeler afin que nous puissions vous rappeler à votre numéro. Alors, je dis que ça m'a... Il y a une question qui nous vient à l'esprit parce que il y a des entreprises qui exploitent déjà le cobalt. Peut-être qu'ils étaient déjà, certains responsables étaient déjà en train de charger leurs produits dans les camions.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que la mesure est tombée?
Bon, d'après le communiqué signé par le gouverneur du Katanga, ceux qui avaient déjà chargé les concentrés dans les camions avaient la journée d'hier, jeudi, pour les évacuer vers Kasumbalesa et Sakania. Après cela, plus de sorties jusqu'à nouvel ordre. Ceux qui se sont conformés aux exigences des autorités locales vont reprendre leurs activités.
Mais quelles sont les dispositions prises pour que la mesure soit respectée par toutes les entreprises, parce qu'il y a toujours moyen de contrecarrer la décision du gouverneur?
Mais nous pensons que cette décision sera accompagnée il y a toujours des mesures d'encadrement.
Mm-hmm. On va faire le suivi pour vérifier comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, la population du Katanga, la population congolaise en général, est-ce qu'elle a accueilli la décision des autorités provinciales du Katanga?
Voilà. Selon certaines personnes, le gouverneur a le droit de remettre de l'ordre dans le secteur. La quinine est amère, cependant, il faut la prendre pour soigner la malaria, affirment d'autres. Mais pour certains, si ces sociétés installent des usines métallurgiques, cela va d'abord créer de l'emploi et développer les tissus industriels de la région. Écoutons encore plus les réactions des habitants de Lubumbashi au micro de notre confrère Paulin Moulin.
C'est une bonne mesure, mais une chose en est que le gouverneur doit poursuivre cette mesure, parce que cela ne concerne pas seulement les usines de la ville de Lubumbashi. Il faut que cette mesure soit aussi poursuivie pour les usines qui sont à la périphérie, à la frontière. Parce qu'il y a des usines qui exploitent des minéraux et directement ça passe par la Zambie sans que ça soit contrôlé ici à Lubumbashi.
Je n'ai pas beaucoup à dire, le gouverneur, il a raison.
Je suis contre, je suis du même avis que les gouverneurs. Les gens qui exportent le minerai, ils le font pour leur intérêt. Nous qui sommes originaires, nous n'en profitons de rien. C'est ça mon avis, en tout cas, qu'ils continuent à défendre que ces gens, donc, cessent de faire ce qu'ils font. C'est pas bien, on est bénéficiant de rien. Ils le font pour remplir leur poche, hein, en exportant le minerai. Et les avenues sont foutues, les routes sont foutues, ils ne font rien. C'est lui-même, le gouverneur, qui s'en occupe de toutes ces choses. En tout cas, c'est pas ça. Les gens, ces gens-là doivent soutenir les gouverneurs pour que la province, quand il y a la vie de Lubumbashi, aille vers l'avant.
Mon point de vue à cela est que c'est une décision bonne en faveur de la population. À ceux qui font l'exploitation minière, de tenir compte aussi de la place de l'individu comme un composant de la société. Et non pas tenir compte simplement du territoire et de ce qui est valeureux sur le territoire. Pour l'intérêt de la population d'abord, puisque le produit sort d'ici. Ils doivent se référer à l'autorité qui a donné la décision pour le bien de la population.
Donc là, c'était les avis de la population congolaise.
Oui.
Vous aussi, vous êtes les bienvenus, hein, si vous souhaitez réagir. Alors, pour terminer, nous avons parlé dernièrement de la révision des contrats miniers, la lutte contre la fraude des produits dérivés avec le CEC, l'interdiction d'exporter les concentrés du cobalt, on en parle aujourd'hui.
Oui.
On a l'impression, hein, je dis que maintenant, les autorités sont déterminées à mettre fin à la fraude dans le domaine minier.
C'est ce que l'on peut affirmer. Cependant, beaucoup de gens sont encore sceptiques. Selon certaines personnes, la fraude et la corruption ont été érigées en système. Alors, ça prendra beaucoup de temps pour mettre fin à ce mal qui a longtemps gangréné le secteur des mines dans notre pays.
0 80 50 60 Donc, on a souhaité Bango ma meilleure vœu. Petite sœur Nangaza na Bandane, Maman Gaëlle, na Bana na Nyon, Sokeren, Myriel, Exocé, Gaëlle, Bango Nyon, on a souhaité Bango ma meilleure vœu, na Mobali na Yé, na Bandeko Nyon, Sokati na Yé, Soubata pour la bénédiction, Oye, on a souhaité Bango ma meilleure vœu. Bonne année, et joyeux Noël.
Écoutez-vous tous les jours sur Radio Okapi.
Vous pouvez réagir à travers des SMS. Je dis qu'on va s'arrêter là. À la prochaine fois, nous parlons de la mesure d'interdiction d'exporter les concentrés du cobalt, mesure qui est tombée hier. Hein. Vous avez suivi, le gouverneur de la province du Katanga vient d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, l'exportation des concentrés du cobalt. Raison pour laquelle aujourd'hui nous en reparlons avec nos invités, parce qu'il faudrait que la population comprenne. Nous avons dans ce studio Léonide Moupépélé, qui est la DG du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des matières précieuses et semi-précieuses, CEC. Il est là. Nous avons également Eric Monga, président du comité mine à la EC Katanga, qui est également dans ce studio. Et pour terminer, un troisième invité, c'est Félix Moupandé, directeur général du cadastre minier. Une fois de plus, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, on va parler de cette question qui intéresse au plus haut point la population congolaise. Bon nombre de gens se demandent comment on est arrivé à prendre une telle mesure alors que le cobalt a toujours été exploité en RDC. Il n'y a jamais eu de mesure d'interdiction du cobalt. Alors, qu'est-ce qui a poussé, selon vous, le gouvernement du Katanga à prendre une telle mesure? Là, je m'adresse pour commencer à Léonide Moupépélé.
Oui, merci beaucoup Nicole. Le gouverneur de Katanga agit à la suite d'une lettre que lui a écrite le ministre de Mines, lettre qui instruisait le gouverneur de Katanga de suspendre donc de manière conservatoire les exportations de cobalt. Bon, qu'est-ce qui a été constaté, c'est que les opérateurs économiques, les opérateurs miniers du Katanga, certains opérateurs véreux, contournant la mesure d'interdiction d'exportation des minerais bruts, s'arrangeaient pour broyer du minerai brut. Vous savez que le concentré de cobalt, ça se présente sous forme de poussière, parce que pour arriver à ce concentré, on est bien obligé de procéder au broyage, donc à ce que nous appelons la réduction granulométrique pour faciliter les opérations de concentration. Donc, je disais que le concentré de cobalt, il se présente sous forme de concentré, sous forme de poussière, et donc les opérateurs économiques contournent la mesure d'exportation de minerais bruts en broyant les minerais bruts et donc lui donner la même forme que le concentré de cobalt. Ceci étant, le ministre, pour pouvoir s'assurer, pour pouvoir maîtriser le circuit de cette fraude, savoir qui est à l'origine de cette fraude, de quelle complicité bénéficient les fraudeurs, il a demandé au gouverneur de Katanga de procéder momentanément à la suspension, à l'interdiction de concentrer les cobalt.
Voilà. Mais beaucoup de gens déjà suscitent cette mesure de suspension. C'est pas lié au fait qu'actuellement les prix ont baissé au niveau mondial?
Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, comme vous le savez, à tous les niveaux, ça c'est le mal congolais. Chaque fois qu'on prend une mesure, il y a toujours des gens qui essaient de contourner cette mesure pour pouvoir essayer de tirer profit n'est-ce pas, de la fraude. Donc ici, c'est tout simplement des gens qui violent les dispositions légales en essayant de donner un aspect un aspect légal à ce qu'ils font. Donc ça n'a rien à voir. Les cours mondiaux du cobalt qu'ils baissent ou qu'ils montent, ça n'a rien à voir.
Ça va à peu près combien le cours mondial du cobalt, vous avez une idée?
Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Probablement que Eric, qui est là, va nous en donner une idée. Mais s'il y a eu baisse, cette baisse ne devrait pas être spectaculaire.
Mais on parle de 48,5 la livre. Vous êtes informé?
Oui, c'est possible qu'on soit à ce niveau-là, mais ce n'est pas un niveau bas. Quand on regarde par rapport à ce que le cobalt était il y a 10 ans, à ce prix-là, nous sommes toujours très très hauts.
Oui, ça c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si Eric Monga partage le même point de vue que vous en tant que président du comité des mines à la FEC Katanga. Eric, nous vous demandons aussi la parole. Parce que bon, là, l'ADG du centre d'expertise nous dit que bon, cette mesure n'a rien à voir avec le cours mondial du cobalt, mais je ne sais pas si vous partagez le même avis que lui.
Merci beaucoup. Je crois que par rapport à trois brins, le cours du cobalt a quand même baissé de plus de 10%. Il est passé d'une moins de 52 à peut-être 45 actuellement, $45 la livre, ce qui est quand même un cours assez haut par rapport à, par exemple, l'année 2000 et 2001, où le dollar était à $5 ou $6 la livre.
Oui.
Et ce qui fait que pour l'instant, on ne peut pas comparer. On ne peut pas dire comparer les deux périodes, par exemple 2000 et 2006. Il y a des effets qui ont fait que le prix du cobalt puisse être à un cours assez supérieur. Mais il est aussi certain que la réduction de la fraude dans le domaine de l'exportation des concentrés ou des faux concentrés qu'on appelle le brut de cobalt permettra aussi à ce que le cours puisse aller plus haut.
C'est ça, il y aura des spéculations.
Et qu'est-ce qui se passe? Ce sera toujours aussi à l'avantage des opérateurs économiques sérieux qui exportent selon ce que la loi demande, selon ce que le process minier recommande et selon les engagements qu'ils ont pris avec l'État au travers du code minier, qui puisse se retrouver dans cette année.
Vous le dites si bien, ça sera l'affaire des opérateurs.
Oui, tout à fait.
Mais les véreux vont en profiter.
Les véreux n'ont pas la place dans une société organisée ou qui s'organise. La FEC, vous avez bien suivi que la FEC n'a pas beaucoup réagi à ces mesures parce qu'ils savent que si ça peut permettre à ce qu'il y ait de l'ordre. Parce qu'à côté des sociétés qui sont de l'autre côté de la loi, il y a quand même beaucoup de grosses sociétés qui sont dans l'ordre. C'est ainsi que je dis que ce n'est pas la plupart des sociétés. C'est certaines sociétés, comme l'a dit
Eric, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, les opérateurs économiques qui évoluent dans les secteurs miniers, combien sont réellement capables de pouvoir construire ou avoir le concentrateur pour aider à l'avancement de cette décision?
Je voulais d'abord dire que le concentrateur n'est pas une finalité en soi. Le problème d'abord, c'est quelle est la procédure. Après un permis de recherche, je crois que le deuxième va mieux vous l'expliquer. Après un permis de recherche, on va à une exploitation. Et de l'exploitation va de l'extraction jusqu'à un métal fini. Et pour avoir un métal fini ou un produit semi-fini qu'on voudrait avoir selon le cycle commercial qu'on voudrait ou un marché qu'on veut pénétrer, il y a toute une série d'étapes qui passent de la concentration du broyage à la concentration. Et là, maintenant, on va dans la transformation métallurgique qui peut aller dans une lixiviation. Pour avoir des filières de production, selon le procès qu'on veut avoir. C'est à cette étape-là, lorsqu'on va maintenant à la concentration.
Dès qu'on concentre, on est déjà sur un produit qui est moins cher. Parce que ces opérateurs le savaient déjà avant même de s'engager, et pouvaient en amont déjà placer ces machines.
Et c'est visible. Ces machines sont visibles. Si vous allez aujourd'hui dans les installations sérieuses, des sociétés sérieuses, c'est visible. Ce sont des machines gigantesques.
Mais alors,
là, je suis en train de parler de sociétés sérieuses qui respectent la loi.
Donc, il y a trop peu de sociétés sérieuses.
Je n'ai pas dit très peu, je n'ai pas dit une échelle de grandeur. J'ai dit qu'il y a quand même une dizaine de sociétés que je connaisse qui peuvent justifier un bon investissement dans les règles de l'art et conforme à la loi. Il y a quand même quelques-unes de sociétés. On ne peut pas comparer des mauvais ou des sociétés qui ne respectent pas la loi et comparer avec tous les
corps. Mais c'est ça, c'est
des sociétés sérieuses. Si je prends rien que ceux qui sont regroupés au sein de la SEC, déjà être dans une corporation des entrepreneurs du Congo, déjà dénote d'une certaine traçabilité et de sérieux. Déjà que nous avons une bonne quantité de sociétés
sérieuses.
Je peux en citer.
Allez-y.
Nous avons Envie, nous avons le groupe de Ouest, nous avons Boss Mining, nous avons Chemaf, le groupe Frontier avec ses différents. Nous avons Roche Mining, nous avons FESA, nous avons Comica. Non, malheureusement. Non, malheureusement. Il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent, qui ne sont pas répertoriés d'abord chez nous, et qui sont mieux connus par l'administration.
Mais Eric Mopandé, qu'est-ce que vous avez
dit? Merci de me mettre...
Excusez-moi, que vous avez cité ces entreprises, est-ce qu'on peut croire que ces entreprises, c'est vrai, ils ont des consommateurs, mais est-ce que ces consommateurs fonctionnent?
Vous n'allez même pas y croire, vous pouvez même voir, toucher du doigt.
Mais ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne, et ce sont des investissements qui s'évaluent en centaines de millions de dollars et visibles. Donc, même quelqu'un qui ne connaît pas les mines peut les voir et peut les tester.
Ah oui,
par contre, il y a des procédés, d'autres qu'on est en train de dénoncer. Nous, les grosses entreprises sérieuses, on dénonce aussi ceux qui veulent perturber l'honorabilité ou la bonne réputation des sociétés.
Parce que vous avez parlé des permis d'exploitation accordés. Là, c'est une question à moi d'ailleurs que nous répercuterons sur cette entreprise, parce que le plus grand partenaire, c'est ceux qui travaillent avec l'exploitation. Mais on doit
savoir l'administration des mines.
Oui, un cadastre minier. Oui. Vous accordez le permis d'exploitation aujourd'hui. Est-ce que vous tenez en compte l'aspect consommateur, que ce soit quand même une exigence avant de commencer l'activité minière?
Parce que je contacte même la question de JR, c'est comme une nouveauté, alors que c'est depuis une année que le gouverneur avait demandé à toutes les entreprises d'avoir des consommateurs.
Voilà, votre question est très pertinente. En fait, pour une bonne précision, il faudrait que je vous dise ceci, tout serait parfait si la loi était respectée. En fait, vous devez comprendre une chose, que l'activité minière, ce n'est pas une activité de boulangerie, c'est une activité qui demande plus de compétences techniques, plus de capital. Voilà pourquoi la loi a prévu que pour obtenir un permis d'exploitation, vous devez être capable de fournir une étude de faisabilité dans laquelle tout ce que vous êtes en train de dire est bien décrit. Le processus métallurgique que vous allez prendre, l'investissement que vous allez, et c'est à condition seulement lorsque vous démontrez que vous avez cette capacité technique et la capacité financière pour rencontrer cet investissement, qu'on vous accorde le permis d'exploitation. Donc, pour revenir au cas du Katanga aujourd'hui, la plupart d'exploitants d'opérateurs miniers dont vous parlez sont régis évidemment par le code minier, mais ils ne détiennent pas de permis d'exploitation. Il s'agit quelque part des acteurs opérateurs fraudeurs qui travaillent.
Que vous connaissez très bien.
Non, pas du tout, parce que c'est, par définition, ce sont des fraudeurs, on ne peut pas le connaître. Qui travaillent sous couvert de certaines autorisations. Des autorisations de transformation, de certaines autorisations de transformation ou des autorisations d'exportation. On vous a dit tout à l'heure, là, il y a quelques dizaines d'entreprises sérieuses qui sont passées par la procédure normale pour obtenir les permis d'exploitation, moyennant la présentation d'une étude de faisabilité dans laquelle est démontrée la capacité technique et éventuellement la capacité de rencontrer le financement requis pour
certains observateurs condamnent le cadastre minier aujourd'hui. Parce qu'une telle décision qui tombe, en principe, on devrait vous associer. Parce que vous avez la liste des entreprises qui travaillent en bonne et due forme, à qui vous avez remis des permis d'exploitation et d'exportation. Aujourd'hui, la décision est prise. Est-ce que vous avez été associé?
Donc, cette décision, il faut vous le dire, est tout à fait salutaire, car elle entre dans le cadre de
la.
avez été associé, ne fût-ce qu'avec une liste.
Associé, je crois, de façon régulière, le ministre est au courant. Et on donne au ministre toute l'information sur les opérateurs miniers qui détiennent des titres miniers dans notre pays ou éventuellement au Katanga. Et tout à l'heure, on vous a dit, il y a une dizaine de sociétés qui ont des permis d'exploitation dans la Gécamine et qui sont censées travailler normalement dans
mais, mais aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'une dizaine d'entreprises minières.
C'est ce que je vous ai dit.
Oui.
Il y en a qui travaillent avec des autorisations. Des autorisations de traitement.
Mais pas du permis d'exploitation.
Non, pas du tout.
Mais alors, passons tout ça. Comment expliquer que vous n'avez jamais intervenu ? Là, je m'adresse directement.
Et surtout par rapport à l'opération.
À nommer mon TPL. Vous avez attendu que le gouvernement intervienne. Mais vous, quel est votre rôle en tant qu'ADG du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des matières précieuses ?
Nicole, j'étais ici la semaine dernière pour vous dire que nous étions en train de nous installer au Katanga, donc nous ne sommes pas encore opérationnels. Et dans ce processus d'installation, nous avons fait effectivement l'inventaire des exploitants miniers. Nous avons trouvé que ceux qui peuvent en ce moment ici être qualifiés d'exploitants industriels dans le domaine minier, il y en a 46. Mais à côté de ces 46, il y a une centaine de ce que disait tout à l'heure, de ce que mon collègue du CAMI a appelé unité de traitement. Donc, ces fours qui sont installés au travers des villes dans le Katanga, il y en a une centaine. Donc, au total, on peut compter qu'il y a 146 à peu près unités industrielles ou semi-industrielles qui procèdent à l'exportation de produits miniers. Mais je voulais souligner d'abord une chose.
Allez-y.
C'est que le but de la démarche du gouverneur et naturellement du ministre des Mines, parce que je vous ai dit que l'instruction est partie du ministre des Mines. Le gouverneur n'a fait que exécuter cette instruction que le ministre des Mines lui a transmise au travers d'une lettre qui date du 13 avril. Le but de cette démarche, c'est de ne pas, c'est pas que le ministre vise au final l'exportation des concentrés. L'idéal, comme l'a dit Eric Monga tout à l'heure, c'est de pouvoir sortir du métal. Et comme vous savez, dans un processus métallurgique, dans le processus minier, on part de l'extraction où on sort le complexe minéralogique qu'on appelle minéré pour arriver finalement au métal. Mais comme on ne peut pas le faire en une seule phase, l'une des phases consiste à pouvoir d'abord obtenir un concentré, c'est-à-dire un minéré qui est enrichi en produits marchands. Et pour l'instant, nous sommes là, c'est-à-dire que le ministre accepte encore qu'on puisse sortir du pays des concentrés. Mais il arrivera un moment où on n'acceptera plus l'exportation des concentrés. Donc il faudra absolument arriver à obtenir le métal. Au départ, lorsque vous savez que nous sortons d'une guerre au Katanga, il y a eu pendant les temps troubles, il y a eu une exploitation artisanale qui s'est développée, et cette exploitation artisanale a donné lieu à ces désordres que nous sommes en train de gérer maintenant, c'est-à-dire l'exportation des produits bruts. Et il y a quelque temps, il y a à peu près un an, le ministre a commencé par interdire l'exportation de produits bruts et a toléré jusqu'à présent l'exportation de concentrés. Mais il va arriver un moment où on va aussi interdire l'exportation de concentrés. Et comme le disait tout à l'heure Eric, c'est-à-dire qu'on a donné le temps aux opérateurs de s'installer parce que les investissements...
Ça n'aura pas un impact négatif au niveau des CSC parce qu'à peine là, vous êtes lancé dans cette opération en lutte contre les opérateurs frauduleux. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la même décision, mais ça risque quelque part de décourager certains opérateurs traditionnels, disons, qui sont...
Bien au contraire, ces mesures tendent à conforter la position du CSC qui est celle de pouvoir s'assurer que tout ce qui sort de notre pays est déclaré, même en sous-produit. Quand on sort du minéral brut, ou même de concentré, ça signifie que en fait, on est en train de sortir le maximum de composants métallurgiques qui sont à l'intérieur. Alors que si on sort un produit fini comme le cuivre, ou semi-fini comme le cuivre cathode ou le cuivre longo, là on a déjà poussé le traitement de sorte qu'on a déjà isolé un certain nombre d'éléments. Donc ça ne peut que nous comporter si jamais on devait arriver un jour à interdire l'exportation.
Comment ils ont travaillé maintenant avec l'exécutif provincial pour les aider, parce que c'est n'est pas installé au niveau de Katanga, et puisque là il n'est pas encore opérationnel.
Ça prend du temps, hein.
Pour
l'installation du CEC.
Non. Écoutez, vous savez, je vous ai dit qu'il y a 146 qu'on pourrait appeler opérateurs, hein, qui procèdent à des exportations. Il faut quand même se préparer de façon conséquente, c'est-à-dire mettre en place l'outil informatique, etc., même la logistique nécessaire pour faire en sorte que, lorsque les opérateurs arrivent chez nous, que nous ne puissions pas constituer, en rajouter à la lourdeur administrative dont on se plaint déjà. Quand vous demandez à Eric Monga si les mécanismes d'exportation sont allégés, il va vous dire non. Il va vous dire que c'est assez lourd, alors nous ne voulons pas, du moment que nous venons nous intégrer dans le processus, en rajouter.
Non, vous mettez de l'ordre.
C'est pour ça que nous nous préparons. Depuis hier, nous avons déjà commencé, au-delà de ces trois sociétés dont vous avez parlé, nous avons commencé à en recevoir d'autres. Et la semaine prochaine, puisque aujourd'hui, mes équipes qui sont là-bas, qui sont à Lumbashi, l'administrateur directeur technique est allé là depuis maintenant 3-4 jours, il est en train maintenant de. Ce matin, il a une réunion avec le ministre provincial local pour pouvoir justement harmoniser les. Donc, de faire les dernières mises au point avant de commencer.
Mais il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui nous arrivent dans ce studio parce que vous savez que dans cette émission, nous donnons aussi la parole aux auditeurs qui nous suivent et qui réagissent au 081-070-2050. La question s'adresse directement à Félix Compandé. Hein. Et depuis qu'il s'analyse en Léon Bazar, nous dit la mesure du gouverneur sera sans effet car les autorités elles-mêmes sont complices.
Notamment le Camille.
Non, mais je me demande en quoi le Camille est complice des opérateurs frauduleux. Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure là, et je crois que l'ONU en a rajouté, il y a quelques opérateurs qui sont recensés. Ceux qui sont connus, qui travaillent conformément à la loi, eh bien, ils respecteront la loi, ils ne vont pas. Je veux vous dire une chose. En fait, la philosophie du code minier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'exploitation minière donne le plus de valeur ajoutée possible. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cuivre produit sous forme métal au Congo va rapporter plus que le cuivre qui sort sous forme de concentré ou bien comme le cuivre qui sort avec plusieurs sous-produits sous forme de matière brute.
Mais,
ce qui est très important à savoir, il y a ces opérateurs qui doivent se conformer à la loi. Lorsqu'ils se conforment à la loi, il n'y aura pas de problème.
Mais vous avez toujours été là. Hein, vous veillez à ce qu'on se conforme sur la loi. Il y en a un auditeur qui nous dit pourquoi on attend toujours qu'il y ait un couteau dans la plaie pour réagir
depuis tout ce temps. Mais je crois que tout à l'heure, l'ONID vous a dit la mesure a été déjà prise depuis une année dans le cas de l'assainissement du secteur
minier.
Il y a évolution parce qu'on a commencé par interdire l'exploitation des minerais bruts pour tolérer le concentré, mais actuellement on s'attaque au concentré parce qu'on veut pousser les opérateurs miniers installés au Katanga qui peuvent être installés aussi partout
ailleurs
à développer le processus de la production
des produits. C'est comme s'il y avait un réveil brutal. Subitement, on se rend compte que les concentrés du cobalt représentent un bénéfice énorme. Et on se dit, bon, allez, maintenant il faut réagir et prendre les dispositions qu'il faut.
Mais vous n'arrêtez pas uniquement sur le concentré du cobalt. Peut-être que c'est un cas particulier sur lequel on est tombé, on a trouvé que les gens usaient de cet artifice pour faire la fraude. Il faut prendre en compte l'ensemble de tout ce qui est produit comme produit minier chez nous, dans notre pays. Le principe, la règle, c'est refuser l'exportation de produits bruts. Parce que le plus grand danger, c'est quoi? C'est la survie de notre industrie minière. Lorsqu'on exporte des produits bruts dans les pays voisins, nous favorisons l'industrie métallurgique des pays voisins par rapport au nôtre. Deuxième problème, c'est un problème économique. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Et comment pouvez-vous tirer le plus de profit possible?
C'est tout un processus. Tout le monde parle de valeur ajoutée, mais la population n'est pas assez dupe que ça. Elle aimerait savoir cette valeur ajoutée pour en faire quoi? Parce que déjà, avec les efforts fournis avant, on n'a pas les résultats.
La valeur ajoutée pour augmenter l'assiette des redevances minières, pour augmenter l'assiette de la fiscalité, et tout ça, vous savez, vous comprenez très bien, ça revient dans le cadre du budget et ça contribue.
Mais déjà, le CEC a du mal à assurer la traçabilité de toutes ces exploitations.
Non,
rapport à votre dernier passage, on a pas
dit. Non, je n'ai jamais dit que le CEC a du mal. Je vous ai dit la dernière fois que nous sommes allés au Katanga, nous avons effectué la. À peu près 3 missions de la délégation générale. 2 de ces missions ont été conduites par moi-même. C'est Eric Monga qui est ici. On vous dira que nous les avons rencontrés toutes les 2 fois et la dernière fois, nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont il faudrait procéder pour ne pas créer de lourdeur. Et je pense qu'il est là, il peut vous témoigner, il n'y a pas un seul opérateur économique, pas un seul opérateur minier du Katanga qui aujourd'hui n'est pas disposé à pouvoir passer par le CC. Donc il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que il a fallu faire les dernières mises au point pour être sûr que lorsque nous allons opérer, nous allons nous intégrer dans le processus normal d'exportation des minéraux.
Éric Monga, il y a une question qui nous arrive d'un auditeur qui dit aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que toutes ces mining exploitent au niveau du Katanga. En tant que président du comité mine à fait, est-ce qu'on peut savoir, nous dit-il, qui sont les fraudeurs et qui sont ces entreprises qui sont en ordre?
Et puis la réponse, c'est que les opérateurs miniers sont d'accord aujourd'hui, demain, ils changent des positions. Parfois, ils sont versatiles. Hein. C'est qui est un peu plus d'une question, quoi. Merci beaucoup.
Vous pouvez donner votre principe
d'avis rapport après de versatilité. C'est une question de principe et de normes. Nous avons un phare qui est le code de l'IFE, une loi. Elle est d'application depuis 2003. Et elle donne un code de bonne conduite et des procédures bien définies.
Malgré cela,
qui doit faire appliquer ce code?
C'est ça.
Qui doit faire appliquer ce code? Je veux parler d'abord de la fraude. Nous ne sommes pas là pour faire la police. Rien que le service étatique. Avant, je peux en parler avant que, par exemple, que le gouverneur Moïse soit là, pour sortir un produit minier, il fallait 52 contrôles. 52 contrôles.
Maintenant, il y a quand même processé.
Mais non, on a réduit. Il y avait d'abord. On a réduit le nombre de contrôles. On a mis des postes.
Combien maintenant?
Maintenant,
après 50,
la loi dit que pour l'instant, il n'y a que l'administration des mines, l'OCC et l'OFIDA qui peuvent contrôler. Évidemment, l'administration des mines, le gouvernorat, le ministère, tout ce qui est comme mine. Et on ajoutera peut-être le CEC pour les matières précieuses, parce que ce n'est pas toutes les sociétés.
C'est pas sûr.
Parce que ce n'est pas toutes les sociétés qui font des matières précieuses.
Mmh.
Oui, les matières précieuses sont bien connues.
Mmh.
Oui. Et le CEC, bon, qui vient maintenant 5 ans après pour tracer. Pour tracer les matières précieuses qui se trouvent dans certains gisements. Au niveau de Katanga, on était tout à fait d'accord, mais ce n'est pas systématique dans tous les gisements.
N'oubliez pas qu'on vous a posé une question, Eric Monga.
Oui. Nous, là, il y a les mines. Il y a la direction des investigations qui doit chercher tous les cordeurs et nous les donner et nous protéger, nous.
Mais au niveau de la fédération.
Au niveau de la fédération, je vous dis,
vous connaissez. Vous avez l'idée du nombre de l'entreprise associée à la fédération.
Lorsqu'une entreprise se présente devant l'autorité, devant une corporation forte, elle a d'abord une présomption de bonne foi. Et que si une entreprise qui est bien connue, traçable et qu'on peut le retrouver dans tous les documents qui a suivi toute la procédure, vous pouvez elle accepte les contrôles. Il y a trop de contrôles, je veux vous dire. Il y a trop de contrôles, il y a trop de tracasseries, trop de contrôles. Je ne sais pas si elle
est une
précision. Comme la province du Katanga.
Juste une précision, Éric Monga. Aujourd'hui, au niveau de la fédération des entreprises du Congo, Katanga, vous avez enregistré combien d'entreprises?
Je vous ai dit tout à l'heure quand on a nous avons une quinzaine d'entreprises à notre, au sein de notre fonds.
Mm.
Et ces entreprises-là, elles participent régulièrement.
Alors qu'il y en a plus.
On a la liberté d'association.
Oui.
On a la liberté de syndicat. Nous ne pouvons pas obliger tel à tel à venir chez nous. Peut-être qu'ils sont dans d'autres associations.
Mm.
Mais on a vu quand même que tout ce qui justifie des investissements sérieux, tout ce qui justifie d'une certaine assise, tant professionnels que financiers, sont là. Ils veulent. Et ils sont là, ils sont. Je vous dis que nous aurons des journées portes ouvertes du 30 au 31 mai. Les sociétés minières vont parler d'elles-mêmes. Elles s'ouvrent au public. Le 30 et le 31, vous allez les voir.
Ça sera une occasion pour voilà, les bons.
Et elles ont préparé
et ces problèmes de
terrasse, et ça, c'est au musée de l'Ombassou. C'est pour justement montrer qu'est-ce qu'elles font. Et je voudrais revenir sur quelque chose.
Très rapidement.
Toutes les structures de sécurité ont été faites pour attraper ceux qui travaillent mal. C'est ainsi que, au niveau de l'administration de Katanga, on a remarqué que tiens, il y avait quelque chose qui clochait dans les concentrés de cobalt, et ils ont appliqué. Ce n'est pas parce qu'ils se sont réveillés maintenant. Ils ont remarqué quelque part que parmi les gens qui travaillent bien, il y a d'autres qui ne travaillent pas bien. Et il ne faut pas leur reprocher ça. Et je voulais ajouter aussi qu'il ne faut pas ajouter à la tracasserie. Ce qui a été fait, c'est dans le cadre normal. Mais on refuse ce qui est tracassé.
Alors, il y a plusieurs questions qui nous arrivent. Permettez que nous donnions également la parole à nos auditeurs. Et là, la question s'adresse une fois de plus à vous. En tant que directeur général du cadastre minier, il y a mon gars de Kilimanjaro qui dit il faut condamner le cadastre minier. Il a déjà vendu toutes les communes du Katanga pour des opérateurs économiques non fiables. Vraiment, la population va bénéficier de quoi? Est-ce que c'est vrai ce qu'il affirme? Vous avez vendu toutes les communes du Katanga aux opérateurs économiques non fiables?
C'est complètement faux ce qu'affirme, et je comprends très bien son désarroi. Lorsqu'on parle d'opérateur minier, il faut catégoriser. Il y a les titulaires des droits miniers qui disposent des droits miniers de recherche, qui eux ne sont pas censés exploiter ni exporter. S'ils exploitent et exportent, c'est une activité frauduleuse. Et leur droit, c'est de rechercher un gisement pour arriver à l'exploiter. Et la deuxième catégorie, j'en ai largement parlé ici, ce sont les permis d'exploitation. Lorsqu'on vous accorde ce droit d'exploitation, et bien c'est un droit qui est beaucoup plus restreint par rapport à celui de recherche. Vous allez exploiter et vous allez évidemment à partir de le travaux de recherche jusqu'à l'exportation.
Vous avez dit que très peu ont ce permis d'exploitation.
Très peu en ont.
Pourquoi vous n'avez jamais réagi pour ne pas permettre à ceux qui n'ont pas le permis d'exploitation d'exploiter?
Et vous attendez, il y a une quoi pour que vous sortez de votre...
Non, madame. Oui. Ceux qui ont des permis de recherche, qui n'arrivent pas à exploiter. La loi a tout prévu. Si vous n'arrivez à exploiter après une période donnée, on vous retire le permis de recherche. Et nous sommes aujourd'hui au premier terme de 5 ans et nous sommes en train de récupérer un certain nombre de permis de recherche qui ont été accordés aux gens.
Donc, vous voulez dire que si vous avez un permis de recherche et pas un permis d'exploitation,
oui,
vous pouvez tout de même exploiter?
Non, vous ne pouvez pas. Il faut arriver à identifier un gisement, à produire une étude de faisabilité, et c'est après seulement l'étude de faisabilité ainsi que la capacité financière qu'on peut vous accorder.
On parle de révocation des contrats, parce que fait par rapport à la question de nos auditeurs, là directement ça prouve à suffisance cette maladresse de la part de cadastre minier.
Vous comprenez d'abord, on a confondu encore. La révisitation de contrat, c'est autre chose que le travail du cadastre minier. Le contrat minier sont des contrats qui ont été signés entre les entreprises d'État, détenteurs de droits miniers, avec des partenaires extérieurs. Le cadastre minier n'a rien à voir
mais,
avec
mais on peut affirmer
ça,
que...
Ça, c'est... Oh,
mais Félix, on peut affirmer que le cadastre minier a toléré certaines exploitations minières.
Et donc, elle pourrait penser que c'est le cadastre
minier. Le cadastre minier n'est pas seul dans l'administration du code. À côté du cadastre minier, il y a, on vous a parlé des services spécialisés de l'administration des mines, notamment la direction des mines, la direction de la protection de l'environnement.
Les services vous accompagnent, mais c'est vous qui avez le rôle principal.
Mais nous avons le rôle
principal
de déployer le droit minier avec le ministre, et les autres ont le rôle de contrôler et d'en assurer les suivis.
Mais on peut quand même croire une chose, c'est que le désordre qui s'est installé, vous y êtes même pour quelque chose.
Il n'y a pas de désordre.
Mmh. Donc, pour laquelle on essaie de mettre de l'ordre.
Il n'y a pas de désordre dont le cadastre minier soit responsable.
Mmh.
Il y a les désordres qui sont, vous comprenez, lorsqu'il y a une loi qui est édictée ou promulguée, il y a toujours une quantité de gens qui mettent en place des mécanismes pour contourner la loi. Les activités frauduleuses, il y en a, mais l'effort qui est fait au ministère des Mines, c'est de faire en sorte de contrôler les secteurs, c'est ce que d'ailleurs qu'on appelle l'assainissement, pour réduire l'activité de fraude. Pour que lorsque vous avez obtenu un permis de recherche et que vous réalisez l'activité pour laquelle on vous l'a donné, et pour évoluer rapidement en permis d'exploitation.
Oui.
Donc je crois savoir, il n'y a pas d'ordre de...
Alors maintenant qu'il y a eu cette mesure, oui, puisque vous parlez des mécanismes, quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour faire appliquer la décision du gouverneur.
Mais les mécanismes sont là. Évidemment, si on vous attrape en train d'exploiter, alors que vous n'avez pas l'autorisation, c'est une exploitation illicite. Vous êtes susceptible des sanctions. Il faut savoir les appliquer. C'est tout là le problème.
Ça, c'est au niveau du cadastre minier. Le niveau de terrain qui arrive au Katanga, c'est un terrain
qui n'est pas encore arrivé.
Aujourd'hui, vous allez évoluer au Katanga, un monde où il y a trop de fraudes, vraiment de fraudes organisées. Oui. Comment allez-vous vous y prendre?
Non. Nous sommes au Katanga depuis déjà, je vous ai dit, depuis 2005, donc depuis 3 ans. Que nous sommes au Katanga, mais que l'arrêté ministériel qui nous autorisait à opérer dans le Katanga ne date que de 2007. De telle sorte que nous avions commencé là-bas par faire un test avec 3 sociétés, je vous l'avais dit. Ce test qui s'étant avéré concluant, maintenant nous voulons étendre l'influence de ceci sur les 146 unités de production. Et ça fait l'objet de notre débat la dernière fois. Mais ce que je voudrais dire, c'est par rapport à cette mesure, parce que vous avez posé la question tout à l'heure à Félix, il n'a plus le temps de répondre malheureusement, c'est par rapport à cette mesure conservatoire qui consiste à interdire les exportations de concentré de cobalt. Pourquoi le ministre a demandé que cela, qu'on puisse procéder, qu'on puisse interdire l'exploitation de cobalt, de concentré de cobalt? C'est pour donner le temps à l'autorité provinciale de pouvoir procéder aux enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. Vous m'avez donné l'impression tout à l'heure que dans le secteur minier, c'est plein de désordre, on n'arrive pas à gérer. Non. Il y a une certaine logique dans la démarche du ministère. Nous sortons d'un pays qui était en conflit. Petit à petit, les institutions sont en train de s'installer. Et tout à l'heure, je vous ai dit au départ, l'exportation au Katanga du minerai brut était la règle. Aujourd'hui, c'est fini. Mais évidemment, il y a des gens qui essayent de contourner la loi, comme l'a dit Félix tout à l'heure, en passant par des subterfuges à tous les niveaux. Et dans tous les secteurs, vous trouverez toujours des fraudeurs, quelles que soient les mesures qu'on prendra. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, si le ministre a interdit l'exportation de concentrés de cobalt, c'est pour établir des responsabilités et voir les complicités. Parce qu'il n'est pas normal que, alors qu'avant tout ce lâche, normalement, il doit y avoir des intervenants publics qui doivent venir assister au scellage et qui doivent prélever des échantillons. Il n'est pas normal qu'à ce niveau-là, alors qu'il y a un contrôle, on puisse malgré tout trouver des fraudeurs qui s'insèrent dans la filière. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on sache à quel niveau cette fraude s'est faite. Est-ce que les intervenants du secteur public, notamment l'OCC, l'administration minière qui assiste aux opérations de scellage, l'OCC qui, lui, s'assure de la qualité des produits, de produits qui sortent. Est-ce que, à ce niveau-là, y a-t-il de complicité? Quelles sont les responsabilités? Justement, c'est pour cette raison-là que le ministre a pris cette
responsabilité. Mais la population n'est pas dupe, hein, vous savez. Il faut quand même insister beaucoup là-dessus.
Il ne faut pas que la population ait l'impression que ceux qui le représentent ne font rien. Hein, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que cette mesure conservatoire, c'est juste pour donner le temps à l'autorité provinciale de procéder aux enquêtes et de savoir à quel niveau sont faits ces...
Mais la population, il y a un auditeur qui nous dit depuis Calémie, il s'appelle César, qui dit « Je suis content de la décision du gouverneur, étant donné que les décisions sont prises, c'est bien, mais désolé, elles seront pas mises en application. » Ça, c'est ce que lui dit. Donc on craint qu'il y ait toujours des fraudeurs, on craint qu'il y ait toujours des gens corruptibles, monsieur Ducadet Sominier.
C'est une présomption.
Oui.
C'est une présomption, mais le fort est là, l'autorité politique est en train de prendre les mesures qu'il faut pour essayer de mettre le plus de l'ordre possible dans les secteurs miniers. Et ça, c'est l'une des mesures qui est très importante dont il faut tenir compte. Il faut que la population...
Je peux parler en tant qu'homme de terrain. Moi, je vis là-bas. Je vis tous les jours ça.
Allez-y.
Je vis depuis l'origine du code minier à ce jour. Et quand vous dites qu'il y a trop de fraude, je crois que quelque part, quand on reconnaît quand même le mérite,
et certaines autorités, surtout actuellement avec l'autorité provinciale, qui a fait une grosse harmonie pour réduire toute, vraiment une réduction drastique de ce qu'on appelle fraude, mais il y a quand même des sociétés qui passent dans les mailles du filet. Je prends bien le terme.
Les circuits
qu'on connaît en train de dénicher. Et fraude zéro, c'est une très bonne chose, mais on doit quand même y arriver. Je reviens sur les concentrés. Vous savez, le cuivre aussi, on peut l'avoir en métal, qui est une grosse valeur ajoutée, mais en cobalt. Les concentrés à un certain niveau sont aussi très valorisables sur le marché international. La finalité dans le cobalt n'est pas seulement le métal cobalt. Il y a beaucoup d'applications du concentré de cobalt dans les piles, dans la peinture, dans toutes les composants où on ne peut pas arriver au métal. Il est mieux de vendre un concentré d'une certaine teneur, d'une certaine caractéristique que le métal. C'est ainsi que les filières de concentré, c'est pour ça qu'on parle de produits marchands. Exporter un concentré de cobalt, bien fait selon les règles de l'art, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais c'est une rentabilité grande.
Non, mais aujourd'hui, la crainte, c'est qu'on a interdit aux opérateurs miniers d'exporter le cobalt. Et ceux-là qui travaillent,
on a demandé des mesures conservatoires pour mettre de l'ordre, parce que la tendance est de plus en plus à ce qu'il y ait beaucoup d'ordre.
Oui, mais c'est une interdiction, hein.
Oui,
c'est
une interdiction conservatoire après enquête. C'est pas une
concession. Mais c'est pour l'instant que c'est une interdiction.
Non, tout à fait, on accepte.
Et devant tout le monde.
Même si certaines entreprises ont des concentrateurs.
Oui, et ceux qui en ont seront blanchis. Ceux qui n'en ont pas,
ça c'est
je crois que c'est
quelque manque à gagner.
Tout à fait. C'est quand on a dit que la pilule est amère, mais on va la prendre. On nous a donné 3 jours de bénéfice pour faire du français, ce qui a donné.
Il y a beaucoup à dire, mais on peut tout dire aujourd'hui. Il y a eu plusieurs félicitations aussi qui sont arrivées dans ce studio, un peu partout. Godefroy Bounia qui félicite le gouverneur pour la décision prise. Nous avons également la réaction de Jean-Léon Baza, depuis qu'il s'est nommé, qui fait la même chose, qui félicite aussi. Toutes les réactions qui nous arrivent sont des félicitations, en tout cas au moins 5 ou 6 réactions, mais bon nombre souhaiteraient que la mesure soit générale, qu'elle ne se limite pas que dans la province du Katanga. Est-ce que vous partagez le même avis?
C'est vrai que l'idéal, ça serait d'exporter de ce pays rien que de métaux. Parce que c'est finalement l'objectif final d'une opération minière, c'est arriver à obtenir un métal ou tout le moins un produit qui soit marchand, qui soit utilisable dans l'industrie. Et en ce qui concerne l'est du pays notamment, nous avons 3 sortes de concentrés qui sont exportés là-bas. Il y a la cassiterite, la wolframite et le coltan. Le ministre a laissé a demandé aux opérateurs miniers de continuer à exporter ces 3 concentrés, mais avec un certain délai, c'est-à-dire après un certain timing, il va obliger à ces opérateurs miniers de faire pareil comme au Katanga, c'est-à-dire de pouvoir installer sur place des unités de transformation. Et je vous ai dit la dernière fois que je suis passé par ici qu'il y avait des dispositions qui étaient prises à certain niveau pour faire en sorte qu'on puisse avoir à Kalima, à Bukavu, des fonderies d'État. Et ici à Kinshasa, des unités de traitement qui iraient jusqu'à produire de la
poudre. Nous étions en train de conclure avec nos invités sur cette question concernant l'interdiction d'exporter les concentrés du cobalt. Et Léonie Mopépélé, vous avez la parole, la population vous a posé une question. Elle aurait souhaité que cette mesure soit générale, que d'autres gouverneurs prennent également la même mesure dans leur province.
Oui, la mesure est générale, mais pour l'instant, si cette mesure a été prise, c'est uniquement dans le cas qui concerne le Katanga, parce qu'il y avait fraude, il y avait, disons, une situation, un événement, un incident qui s'est présenté dans les circuits normaux d'exportation. Bon, en ce qui concerne les autres provinces, vous prenez le Sud Kivu, le Nord Kivu, qui est le Maniema, qui eux exportent leur concentré de cassiterite, de coltan et de wolframite. Pour l'instant, on n'a pas constaté ces genres de fraude, mais comme je vous ai dit, là aussi, le ministre a pensé à un processus qui devrait finir un jour par demander à ses opérateurs d'installer sur place des unités de traitement pour produits du métal. Mais pas continuer à exporter les concentrés. Pour le reste du pays, nous sommes pour la plupart, nous n'avons pas d'unité industrielle d'exploitation, que ce soit pour la province orientale, qui, je vous l'informe si vous ne le savez pas, et qui sera probablement la deuxième province minière après le Katanga, à voir le nombre de permis de recherche qui recouvrent cette province. Dans cette province-là, nous sommes encore en situation de permis de recherche. Donc, comme le disait Félix tout à l'heure, ce sont des opérateurs économiques qui sont à la recherche de gisements exploitables. Mmh. Donc, à ce niveau-là, la situation qui se passe au Katanga ne les concerne pas.
Alors, si vous parlez, est-ce que vous partagez le même point de vue?
Oui, je partage mon point de vue, car ces mesures contribuent à appliquer les normes du code minier, qui sont très claires. Le code minier s'inscrit dans la politique de faire tout l'ensemble du processus de traitement jusqu'à la production du métal dans notre pays. Parce qu'en fait, je veux vous signaler aussi qu'il existe même un programme de traçabilité. Parce qu'en prenant des mesures comme celle-là, en mettant en place des mesures consistant à tracer, nous allons réduire le moins de fautes, le moins d'exploitation irrégulière et moins d'écart comme ce que nous, tout à l'heure, nous venons dessous dans les infos. Il y a des enfants qui sont tombés dans la carrière. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Peut-être des minéraux et le vendre à qui? Et celui-là est devenu disponible à quel prix? De quelle manière? Et c'est ça. L'autorité cherche à appliquer les normes qui sont inscrites dans le code minier et cette mesure s'inscrit dans ce cadre.
Merci beaucoup. On l'a dit, les autorités, le ministre ainsi que le gouverneur ont donné un planning aux gens pour dire que alors, voilà, vous commencez l'exploitation, vous avez installé à tel délai, telle machine, et vous allez arriver à votre produit fini que vous avez déclaré à telle période. Et c'est en ainsi que quelqu'un justifie un programme, un planning normal, je crois que quelque part c'est quelqu'un qui doit être encouragé. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, j'étais dans deux réunions internationales de très haut niveau où le ministre ainsi que le gouverneur de Katanga sont parmi les facteurs qui déterminent les prix internationaux de deux matières, cobalt et cuivre. Ça veut dire que quelque part, lorsque le gouverneur dit voilà, je mets de l'ordre dans le cobalt, vous allez voir, le prix aujourd'hui est à 45, demain 3 à 4 jours, vous allez voir, il peut remonter. C'est un partage.
Ça va remonter.
Nous, opérateurs économiques, nous l'espérons, pourvu qu'on mette de l'ordre, la traçabilité, l'attestation de transport, les contrôles, tout ça, si ça peut, tout ça peut tendre à ce qu'il y ait de l'ordre, tant mieux. Mais lorsqu'il y aura du désordre, là, nous allons crier.
Passez ainsi avec nous, voilà. Alors. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous vous disons à la prochaine.
Merci.
Je suis obligé de vous couper la parole, mais on va reprendre juste après le flash info.